Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Monnaie Libre. Aujourd'hui, je reçois un historien, Yannick Bosque. Salut Yannick.
Bonjour.
Alors Yannick, tu es maître de conférence à l'université de Rouen.
Exact.
Et tu es spécialiste de la Révolution française.
Exact aussi.
Donc aussi du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, on t'a invité dans Monnaie Libre parce que il se trouve que pendant cette Révolution française, il y a un grand monsieur qui a joué un rôle, qui s'appelle Thomas Paine, et qui, dans un ouvrage qu'il a commencé à rédiger en 1795 et qu'il a édité en 1797, Agrarian Justice, la justice agraire, préconise la mise en place d'un revenu citoyen, d'un revenu de base à cette époque. Et voilà, le sujet de notre émission, c'est ça, c'est Thomas Paine, et tu connais Thomas Paine. Donc tu vas nous parler de Thomas Paine. Qui est Thomas Paine?
Alors, je ne sais pas si je le connais intimement, mais je l'ai fréquenté. C'est un personnage qui est assez fantastique, à vrai dire, qui est d'origine très modeste, qui est corsetier. Son père était corsetier également, qui vient du peuple, donc, et qui a toujours réclamé cette posture, cette origine populaire. En rappelant que le bon sens commun du peuple est souvent plus intéressant que le savoir des élites, des experts. Et donc il a toujours essayé de penser les sociétés, de réfléchir aux sociétés en fonction de ce bon sens commun, de ce sens populaire, et de remettre en cause souvent l'obscurité des systèmes établis.
D'accord.
Alors c'est quelqu'un qui est donc un intellectuel, en dépit de son origine modeste. Et c'est en même temps quelqu'un qui était une sorte d'aventurier, un révolutionnaire, qui s'investit politiquement dans des combats et qui est à la fois anglais, américain et français.
Alors ça c'est extraordinaire. Donc à cette époque, c'est rare d'avoir quand même comme ça un bonhomme qui fait les trois grands pays de l'époque en termes révolutionnaires, puisque c'est vraiment là où ça bouge à tous les niveaux. Comme ça, trois pays. Alors, on a Lafayette, nous, qui a fait le transfert France-États-Unis.
Oui, alors Lafayette fait partie des amis de Paine. Paine est toujours très fidèle en amitié. D'ailleurs, c'est assez amusant. C'est amusant à l'époque, ça n'a pas été trop pour lui, mais il a continué à dédier sa réflexion à Lafayette, en souvenir du Lafayette de l'Amérique, au moment où Lafayette était un traître en France et où le nom de Lafayette n'était plus synonyme de révolution ou de droit de l'homme, mais synonyme de trahison.
Alors qu'il a aidé la révolution américaine.
Alors que par ailleurs, il a aidé la révolution américaine. Donc il y a des déplacements qui se font. Hein. Et Thomas Paine étant comme ça à la fois aux États-Unis, à la fois en Angleterre, à la fois à la France, des fois loupe des morceaux des événements dans ses circulations et des fois à contre-temps ou dans des rôles décalés, dans des moments particuliers. Ce qui fait d'ailleurs qu'il est passionnant. C'est-à-dire que comme il n'est pas d'un lieu particulier, il permet d'interroger ce lieu différemment. Il est un peu la particule étrangère dans un système dont on se demande comment l'interpréter, la comprendre.
Oui, c'est-à-dire qu'il est suffisamment hors du système, en fait, finalement, pour en avoir vécu beaucoup, pour pouvoir l'analyser avec plus d'objectivité, peut-être.
Alors, il est hors du système tout en étant dedans, et il est un témoin, un acteur témoin des dysfonctionnements de ce système, bien souvent.
D'accord. Ouais. Mais alors, comment un fils du peuple comme ça, un fils de corsetier, donc anglais au départ,
oui,
se retrouve d'abord dans la Révolution américaine. Enfin, comment il fait pour se retrouver là-bas?
Alors, il va aux États-Unis chercher l'aventure, en quelque sorte. Hein. Il est aidé par Franklin, l'homme du paratonnerre. Il va travailler Paine dans la presse d'abord, c'est un homme de presse, c'est un journaliste et quelqu'un qui va lutter pour que ce travail de journaliste ne soit pas un travail d'anonyme ou simplement un travail d'imprimeur, mais que ce soit vraiment un travail d'auteur. Et il est de ceux qui ont inventé un style littéraire singulier, qui s'adresse à la plus grande masse possible d'individus, tout en étant dans le monde des idées, et qui va générer, on peut le dire, hein, le journalisme moderne. C'est quelqu'un qui va se battre pour le droit d'auteur, également. Voilà. Donc c'est par ce biais-là, par l'écriture, hein, qui rentre dans les idées révolutionnaires, hein, et c'est par un ouvrage qu'il va écrire, qui s'appelle « Sens commun »,« Common sense », »,« Le bon sens populaire », hein, qu'il va acquérir en quelques mois une notoriété extraordinaire. Hein, ça va être vendu, je pense, à 120 000 exemplaires, c'est-à-dire un tirage monstrueux.
Pour l'époque, ça paraît beaucoup.
Pour l'époque, c'est déjà aujourd'hui, c'est pas mal.
Oui, ouais, bien sûr.
Hein, bon, mais pour l'époque, c'est vraiment véritablement monstrueux. C'est quelqu'un qui est capable d'écrire avec une langue dont ses ennemis disent qu'elle est une langue du peuple, justement, une langue pleine de fautes de grammaire, fautes de syntaxe. Mmh. Hein, pas la langue habituelle des savants. Écrire vite,
ouais,
de manière intelligible, en peu de pages. Toujours 100, 120, 130, 140 pages, hein, et dans des formats qui sont toujours très économiques, donc pour tous, hein, et d'écrire des idées qui sont d'habitude enfouies dans les sérails, enfouies dans les lieux un peu clos où les intellectuels débattent entre eux.
Voilà. Donc il fait jaillir comme
ça. Il fait jaillir des discussions qui ne sont pas dangereuses quand elles restent entre initiés en quelque sorte.
Et déjà grâce à l'époque, finalement, avec l'industrialisation de l'imprimerie, c'est-à-dire qu'on a, ce phénomène-là qui continue sa route, puisque Gutenberg, ça date de bien avant, bien sûr, mais c'est ce phénomène qui permet cette diffusion comme ça massive d'idées.
Oui, on peut avoir une diffusion massive d'idées et des idées qui circulent et qui sont lues directement ou lues par une personne qui diffuse aux autres.
Mais alors à tel point donc ces idées que finalement il va être partie prenante de la révolution américaine.
Il va être quelqu'un qui va impulser en fait. Il va arriver à synthétiser ce qui est dans l'air du temps mais qui n'a pas encore été formulé officiellement. C'est l'idée qu'il faut se séparer de l'Angleterre.
Oui.
Au nom du principe de représentation, qui est un principe essentiel chez Thomas Paine. Il dit que chaque homme parce qu'il existe, chaque être humain parce qu'il existe doit être représenté. Ses idées doivent être représentées. Et être représenté, c'est exactement ce qu'il n'y a pas quand on est sous la domination anglaise, puisque le Parlement anglais décide pour les Anglais d'Amérique, en quelque sorte, hein, et décide de ce qu'ils doivent faire, décide des impôts qu'ils doivent payer. Hein. Et donc le grand principe des... ils sont appelés les insurgents, les révolutionnaires américains, c'est pas d'impôts sans représentation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dépendant d'une structure politique dans laquelle on n'a pas une voix.
D'accord, donc, voilà. Donc c'est ça, le principe fondamental qui sous-tend ce discours-là.
Absolument, et c'est l'idée d'indépendance. Donc.
Ouais.
Donc au moment où la plupart des acteurs importants en Amérique réfléchissent à des compromis avec la couronne, Paine est un de ceux qui dit indépendance.
Indépendance. Et donc il est suivi, encouragé.
Et sa voix, bien sûr, a un poids qui est énorme parce qu'il a derrière lui une population qui est plutôt favorable à ce point de vue.
D'accord. Et alors, comment après ça, il va se retrouver en France ? Quelle est sa démarche ? Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est parce qu'il est chassé des États-Unis ? C'est quoi l'idée ?
Non, il n'est pas chassé des États-Unis. Il va se retrouver en France avant la Révolution française. Il va y passer. Hein, il a un certain nombre de personnes qu'il connaît via la Révolution américaine, Brissot par exemple, ou Lafayette, et il va surtout faire un long séjour au début de la Révolution française avec des hommes qui parlent anglais, parce que Paine est français, enfin, il va le devenir, il ne l'est pas encore en 89-90, mais Paine est français mais ne parle pas français, il le comprend mais le parle très peu. Et donc il est dans les réseaux qui en France sont proches de la Révolution américaine. D'accord. Et d'hommes qui sont des intellectuels comme Condorcet, des savants, parce que Paine s'intéresse également à la science, ça s'intéresse à la technique. Il y a des projets pour breveter des ponts en particulier, hein, et donc il veut les présenter en France, à l'Académie, pour voir un peu comment cette chose pourrait être réalisée. Et rencontre donc ces réseaux d'intellectuels, de savants anglophones, dans les années qui précèdent la Révolution et qui la suivent. Comme il est proche de Franklin, hein, il est dans ce réseau-là.
D'accord. Et donc il se retrouve en France, et là aussi, il va jouer un rôle clé, enfin en tout cas remarqué dans la Révolution. Hein.
Alors il va jouer son premier rôle, ça va être d'être la voix qui dénonce le discours le plus hostile au principe de la Révolution française. Et ce discours le plus hostile à la Révolution française, en tout cas le plus articulé d'un point de vue théorique, est celui d'Edmund Burke en Angleterre. Burke dit les fondements de la Révolution française, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme, est quelque chose qui est une aberration. On ne fonde pas une société politique sur des abstractions. On les fonde sur la tradition, sur l'histoire, sur le passé, comme la monarchie anglaise.
Ouais.
Vouloir fonder le monde sur les droits de l'homme est une hérésie absolue. Et Paine va écrire Droits de l'homme en 1791 contre l'anglais Edmund Burke pour défendre les principes des droits de l'homme contre la tradition, contre finalement le passé qui serait la bonne légitimité politique.
On a la fameuse opposition conservateur finalement progressiste, c'est un peu ça.
Oui, si on veut, même si c'est plus compliqué que ça, parce que Burke est du côté plutôt des libéraux en Angleterre. Hein, donc, mais on a effectivement une partition, parce que Edmund Burke va devenir, enfin son ouvrage va devenir, Réflexion sur la Révolution de France, va devenir un bréviaire de la contre-révolution. Hein, ça veut dire que ça va être l'argumentation qu'il développe, va être l'argumentation qui va être ensuite réutilisée contre la France des droits de l'homme et contre la Révolution française. Et donc c'est un Anglais contre un Anglais qui devient celui qui, dans ce langage, toujours très accessible, dans des volumes toujours très compacts, avec des arguments en choc, va s'opposer à ce discours contre-révolutionnaire, donc, et mettre en avant le discours de la Révolution. Donc c'est en fait un théoricien.
Oui, c'est un théoricien.
De la Révolution française.
Oui, d'accord.
Et c'est dans cela
d'abord qu'il a... américaine et maintenant française.
D'abord aussi. Américaine et également française. Hein, et c'est en cela qu'il a un poids. Et c'est en cela qu'il devient en France également quelqu'un de célèbre, extraordinairement célèbre. Ce qui fait que lorsqu'il va écrire Droits de l'homme 2, c'est-à-dire la suite de Droits de l'homme, en 1792, et qu'il va pour cela être poursuivi par les tribunaux anglais.
Ah, il va être poursuivi.
Absolument.
Pour avoir.
Et oui, parce qu'il sape les
anglais.
Il sape les fondements de la monarchie anglaise avec ses histoires.
Depuis la France.
Depuis la France.
Ça, c'est un sale coup qu'on leur a fait.
Et il est retourné. Voilà. Et il est retourné. Entre temps, il est retourné en Angleterre.
Ouais.
Et il va être donc condamné par les tribunaux anglais. Il va être obligé de fuir l'Angleterre, de se réfugier en France. Et il a été élu entre temps député français. Pour le Pas-de-Calais d'ailleurs, député français parce que on lui avait donné la nationalité française. On l'avait donné pour quelle raison ? Parce que c'était une époque où on pouvait accéder à la nationalité française de manière très large. Il suffisait par exemple d'avoir, je cite, « bien mérité de l'humanité ».
Oui.
Voilà. Donc Thomas Paine et d'autres savants, des intellectuels, qui étaient partout dans le monde, mais parce qu'ils avaient développé des idées qui renvoyaient à l'idée du bonheur de l'humanité, avaient donc bien mérité l'humanité, donc d'accord. Mérité d'être français. D'accord. Français, c'était pas forcément un territoire, c'était des idées.
C'était une idée avant tout.
Une idée d'accord. Avant tout.
C'est voilà. Magnifique. Alors oui, bien sûr, ça fait un peu rêver. Alors, on est donc en 1792. Alors ça fait déjà trois volumes en fait qu'il écrit, puisqu'il a d'abord écrit donc Common Sense, sens commun, aux États-Unis. Maintenant, il a écrit Droits de l'homme 1, puis Droits de l'homme 2. On voit qu'il se fâche avec sa mère patrie, on va dire, hein,
oui,
avec l'Angleterre. Et on approche de notre sujet, puisqu'il va, en 1795, commencer à écrire Agrarian Justice, qui est quand même un gros pavé dans la mare, puisque on peut dire qu'il se place dans la lignée de John Locke, qui lui-même avait un siècle avant, quasiment, mis en place déjà l'idée de la compensation lockéenne, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas s'approprier tout n'importe quoi sans qu'il y ait une compensation pour ceux qui n'auraient plus accès aux ressources qu'on appelle originelles. Par exemple, c'est typique, John Locke donne cet argument, si vous appropriez la seule source d'eau qu'il y a dans un désert, il faut qu'il en reste un peu pour les autres, il faut quand même une compensation. Donc c'est pas contre la propriété, mais il y a des limites à la propriété de tout et n'importe quoi. Et il ne peut pas y avoir comme ça une privation de liberté des autres d'eux-mêmes de devenir propriétaire finalement. Et donc dans Agrarian Justice, il y a un peu cette idée-là que de dire finalement il y a donc les ressources agraires de la France qui sont considérables à l'époque, mais qui ne sont pas forcément suffisantes. Alors je crois qu'il lit ça d'ailleurs à la notion de citoyenneté. Il n'y a pas de citoyen sans revenu, je crois, quelque chose comme ça.
Alors si on regarde l'histoire, cette rédaction de Justice Agraire, hein, qu'il entreprend en 95-96 et qu'il va publier en 97, elle est liée profondément au contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est ce qu'on appelle la réaction thermidorienne. La réaction thermidorienne, c'est le moment où, après avoir éliminé les montagnards, les thermidoriens essayent de mettre en place une constitution qui va faire que seuls les gens qui ont du bien, qui ont de l'argent, vont pouvoir être citoyens. Oui. Donc pour être citoyen, il faut, disent-ils, être libre. Et pour être libre, il ne faut pas dépendre d'un autre pour son revenu.
D'accord.
Donc un véritable citoyen, un véritable homme libre est quelqu'un qui a une autonomie en termes de revenus. Et donc Payne dit, dans ces conditions-là, puisque vous excluez de la citoyenneté les pauvres et ceux qui n'ont pas assez pour payer une certaine quantité d'impôts, donc on va faire en sorte qu'ils puissent être autonomes.
D'accord, donc parce qu'ils
sont libres, donc citoyens.
Donc c'est l'idée, c'est de dire, donc finalement, donc si on donne un revenu à tous les citoyens, de fait, ils deviennent de fait citoyens. Si chacun a un revenu, il devient citoyen. Donc il peut participer. Donc le problème est résolu.
Donc ils peuvent être tous électeurs, voilà.
Mais pourquoi agrarian justice, hein? C'est un rapport quand même avec les ressources.
Alors,
agraires. Donc.
Oui, agrarian justice, justice agraire. Bon, on est au XVIIIe siècle, on est dans un monde qui est d'abord un monde paysan, un monde agraire. Et avec cette idée que la richesse produite par l'agriculture est une richesse tirée du sol. Hein. Ce que dit Payne, donc ça c'est dans ce contexte-là, il dit le sol avant était propriété de tous.
Tous ou de personnes, selon le point de vue.
Bon, de tous ou de personnes, en tout cas il était en commun.
En tout cas il est en commun.
Hein. Ouais. C'est d'un bien commun.
Ouais. Hein.
Il s'agissait d'un bien commun, or un certain nombre de personnes se sont appropriées une partie de ces ressources, et cela fait qu'il y a maintenant, dans ce monde qu'on appelle civilisé, qui s'appelle le monde européen, mais plus largement le monde atlantique, dans ce monde décivilisé, on a finalement des pauvres et des riches, et des pauvres qui sont tellement pauvres qu'ils ne sont plus que des Indiens en Amérique.
Oui.
Eux ne connaissent pas la civilisation, semble-t-il, ne connaissent pas le progrès, ne connaissent pas une humanité enviable qui est la nôtre. Or, dit-il, la vie d'un Indien est meilleure que la vie du plus pauvre.
Du plus pauvre des Français.
Voilà. Et, dit-il, les Indiens ne connaissent pas la propriété.
Oui.
Donc cette appropriation qui a marqué l'Occident a généré des riches et des pauvres. Alors les riches actuellement, au moment où il écrit, au XVIIIe siècle, ne sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs ancêtres.
Oui.
Mais...
L'aspect temporel qui revient, dans Mon est libre, on en parle beaucoup, ce fait de voir au-delà de sa propre vie, si nos actes ne vont pas avoir un impact sur les générations qui suivent.
Exactement, mais donc, toutes ces personnes qui sont riches maintenant, et qui méprisent d'ailleurs les pauvres, il faut qu'ils rendent justice.
Il faut qu'ils appliquent la compensation locale. Ils se sont appropriés trop de choses au détriment de trop d'hommes présents qui n'étaient pas là, d'ailleurs, quand cette appropriation s'est faite. Et donc, sans cette compensation, on voit bien qu'il y a un souci, en fait.
Voilà, donc il faut rendre. Alors, il dit, Thomas Paine n'est pas hostile à la propriété. Il est hostile à une propriété qui met à mal l'existence des autres. En d'autres termes, il pense qu'une société existe quand le plus démuni des hommes peut vivre de manière digne.
Ouais.
Et cette vie digne exclut donc la pauvreté. Une vie digne, ça ne veut pas dire que tout le monde a beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui aient beaucoup et d'autres qui aient moins. Il ne faut pas que ceux qui aient moins ne puissent pas exister.
Ouais.
Voilà. Donc dès l'instant où quelqu'un a et que le fait d'avoir empêche les autres de vivre dignement, cet homme est hors la loi.
Ouais.
Et donc il faut, au nom de la loi, au nom des principes qui font une société, rééquilibrer, faire acte de justice, compenser le vol initial. Et Payne dit, bon, on peut pas voler, aller chez le... Quelqu'un dit, à l'époque où il écrit, il y a Babeuf, hein, qui réfléchit à peu près dans le même champ de réflexion, mais Babeuf dit, on pourrait exproprier.
Ouais.
Hein, et Thomas Paine dit, non, on va pas exproprier, on va pas faire violence à ses propriétaires. En revanche,
Quand ils ont... il est libéral aussi.
Il est favorable à la liberté.
Il est favorable à la liberté, c'est-à-dire qu'il ne veut pas non plus, sous prétexte de rendre justice aux uns, ne pas prendre en compte une situation qui est quand même
voilà, de fait. Il n'est pas favorable à ce qu'on pourrait appeler, c'est anachronique, mais ce qu'on appellerait nous, au XXIe siècle, une étatisation.
Oui.
Hein, il n'est pas pour une confiscation
ou
une nationalisation.
Violente, voilà. Ouais, bon.
Il pense en revanche que ces riches donc doivent compenser ce vol initial. Et pour ça, le meilleur moment, dit-il, c'est le moment où la propriété change de main. Donc le moment où il y a des héritages. Mm-hmm. Et donc au moment où la propriété change de main, où elle va être transmise
d'un individu à un autre,
de quelqu'un qui a peut-être ajouter quelque chose par son travail à cette propriété, à quelqu'un qui n'a encore rien fait, alors là, on doit prendre une part et la redistribuer à ceux qui rentrent dans la vie et à ceux qui sortent de la vie pour que ces individus aient une existence qui soit digne.
Et donc un revenu citoyen ?
Un revenu minimum.
Un revenu minimum citoyen.
Ce qu'on appellera plus tard une allocation universelle.
Ouais. Et qui maintenant se généralise sous le terme revenu de base, puisque c'est
revenu
le terme qui, au niveau international, semble prendre le pas entre basic income, renta basica, bonda in common en Allemagne aussi maintenant, et donc revenu de base en France aussi. Mais...
Revenu de base en France, et donc on ne trouve pas l'expression allocation universelle, basic income en anglais, hein, chez Payne, hein, on retrouve le principe d'une allocation qui doit être donnée sans condition, d'où le principe d'universalité. Donc il dit les riches, au moment où ils disparaissent, au moment où ils vont léguer leur fortune, en particulier les terres,
hein,
ou ces terres initialement,
oui.
Qui ont généré ces fortunes qui peuvent être multiples et diverses au XVIIIe siècle, ces riches doivent donner une part.
Ils doivent la transmettre finalement.
Doivent la donner à la société, doivent la mettre dans le pot commun. Et après, elle va être redistribuée à tous, riches et pauvres compris, à tous indépendamment de leurs revenus. Et Payne dit, bon, peut-être que les riches ne voudront pas prendre leur part, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'ils ne l'aient pas. Ouais, c'est important, parce que ça veut dire qu'on ne stigmatise pas celui qui va recevoir quelque chose qui est de l'ordre, il le précise, du droit.
Donc il y a déjà cette idée d'universalisme qui est présente chez lui.
Le principe d'universalité est absolument présent, hein, et il s'agit donc d'une question, dit-il, de droit, mais pas une question de charité.
Oui, bien sûr. D'accord.
Donc tout le monde a droit à ça, et donc tout le monde est sur un pied d'égalité, il n'y a pas des frelons qui voleraient, comme on dit à l'époque, le miel de l'abeille laborieuse.
Alors tu disais qu'il y avait un Anglais qui était un peu son contre-révolutionnaire, il s'appelait comment ?
Burke, Edmund Burke.
Mais pourtant, les libéraux citent souvent Thomas Paine finalement et John Locke, comme étant des penseurs de certains courants libéraux, ils sont cités. Donc pourquoi finalement opposer le libéral Burke, qui finalement ne l'est pas, puisqu'il a l'air d'être contre les idées de liberté, en tout cas telles qu'elles sont exprimées par la Révolution, et pourquoi Thomas Paine n'est pas reconnu ou n'est pas cité comme étant un des penseurs du libéralisme finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un dévoiement là dans l'idée même de libéralisme, dans la façon dont c'est présenté ?
Alors il faut savoir que la notion de liberté est un véritable champ de mine. c'est tout sauf une notion consensuelle.
C'est ça la Révolution française.
Oui,
c'est bien ça,
absolument.
C'est quand même ce problème-là.
Les libertés, on va dire, c'est quoi ? Liberté de qui ? Et de la même manière, quand Locke fonde les principes de liberté, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de liberté ? Est-ce que il s'agit de la liberté donnée au propriétaire de faire ce qu'il veut de ses propriétés, par exemple ? On pourrait dire, hein, la déclaration des droits d'homme et des citoyens est une déclaration qui garantit les droits individuels, et en particulier ceux du propriétaire, qui peut, au nom de sa liberté de propriétaire, faire ce qu'il désire de sa propriété. Et c'est une lecture qui est proposée en 1789, 90, 91, et sous la Convention thermidorienne, par ceux qui pensent que la Révolution française est un moment d'ouverture de la liberté, en particulier de la liberté économique. Donc il y a des réflexions qui vont dans ce sens, qui sont portées au XVIIIe siècle par les physiocrates, en particulier, et qui définissent la liberté comme non-interférence, non-entrave. Je suis libre s'il n'y a pas d'entrave à ma liberté. Il peut y avoir d'autres définitions de la liberté qui vont dire il n'y a de liberté que si les autres également sont libres. S'il n'y a pas de liberté pour l'autre, alors on n'est pas dans un monde de liberté, on est dans un monde de maître et d'esclave. Donc, ils disent, pour qu'il y ait de la liberté, il faut que les êtres humains soient égaux entre eux, et que ma liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Et que ce principe-là ne soit pas simplement valable pour la liberté de la presse, pour le droit d'aller et venir, mais ça soit également valable pour la propriété. Le droit du propriétaire s'arrête où commence la liberté de l'autre.
Donc si l'autre ne peut pas devenir propriétaire, finalement on a un blocage.
Alors si l'autre ne peut pas devenir propriétaire, on a un blocage, mais il n'est pas besoin qu'il soit propriétaire. Imaginons que je sois propriétaire au XVIIIe siècle. Ma fortune, elle est dans quoi? Elle est dans du blé, par exemple, des céréales, qui sont le lieu de la spéculation. Qu'est-ce que je peux faire avec ces céréales? Si j'ai liberté de faire ce que je veux de mes propriétés, eh bien je peux ne pas les vendre ou les vendre. Par exemple, si les prix sont bas, ben, j'ai tout intérêt à ne pas les vendre. Donc à les conserver, attendre que les prix montent, spéculer à la hausse pour après écouler mes céréales.
Voire même le fait de les garder peut aider que le prix monte.
Eh bien voilà, évidemment. Le problème, c'est que les céréales, on fait du pain avec. Et qu'à l'époque, la céréale est la base de l'alimentation. Ça veut dire que quand on spécule, on touche à l'existence de l'autre. Et donc la liberté du commerce, la liberté du propriétaire, qui pourrait être garantie par la Révolution française, puisqu'elle ouvre la liberté. Cette liberté-là touche à la liberté de l'autre, touche au droit à l'existence de l'autre. Et donc Thomas Paine, du côté d'une liberté qui est conçue, pensée, définie comme droit à l'existence. Et il est critique d'une liberté qui serait la liberté illimitée du propriétaire.
Donc on retrouve la notion de revenu d'existence, si on fait le lien, alors, parce que c'est ça c'est Yolande Bresson, que j'aime beaucoup citer ici, qui lui avait développé cette idée de revenu de base aussi via le B de revenu d'existence. Donc liberté liée à l'existence, revenu lié à la citoyenneté, on voit bien qu'on retrouve ces idées-là aussi.
Voilà, et Thomas Paine est tout sauf le seul qui parle de ça. C'est quelque chose qui est partagé au XVIIIe siècle par tout un tas de courants intellectuels ou politiques pendant la Révolution française qui critiquent ce qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire l'embryon du capitalisme, l'embryon du marché, et qui disent qu'une société ne pourra jamais tenir avec des personnes qui accumulent et d'autres qui n'ont rien. Et donc ce débat, il est déjà là contre les physiocrates, il est déjà là également dans le mouvement populaire, puisqu'il y a des tentatives avant la Révolution française qui sont faites pour libéraliser le commerce des grains, et ça a produit pendant la guerre des farines, en 1774-75, ça a produit des émeutes frumentaires, des émeutes populaires.
Et la fameuse phrase de Marie-Antoinette, s'ils peuvent pas avoir de pain, qu'ils mangent des brioches, c'est ça?
Voilà, par la Révolution française. Donc la Révolution française, au départ, les députés qui sont au cœur de l'Assemblée sont des libéraux au sens où ils voudraient libéraliser la politique, libéraliser l'économie qui, sous l'Ancien Régime, était entravée par tout un tas de règlements particuliers et qui empêchaient donc à la fois la circulation des marchandises et puis le propriétaire de faire ce qu'il voulait, puisque le principe du roi, c'était un roi nourricier, un roi protecteur. Il y avait donc un certain nombre de greniers d'abondance et qui permettaient justement d'éviter trop de spéculation, parce que trop de spéculation, ça voulait dire des émeutes, et des émeutes, ça voulait dire du danger pour le pouvoir.
Ouais, ils avaient compris qu'il fallait un stock de précautions.
Voilà, donc dans la Révolution française, il y a différents types de libéraux qui ne sont pas forcément d'accord. Ils sont tous d'accord pour changer le système. Mais pour mettre quoi à la place? Quel type de liberté?
Oui, voilà, il faut changer cette notion.
Une liberté qui va mettre en avant les puissants, les propriétaires, les gens qui ont du bien, qui sont cultivés, qui maîtrisent la complexité du social, ou est-ce qu'ils vont donner la liberté à l'ensemble du peuple. Le problème, c'est que ce peuple est le souverain. Il a été défini comme tel. Ouais. Ce peuple légitime ses assemblées. Ouais. Et donc, ces assemblées vont essayer difficilement, et ça sera un échec à partir de 92, vont essayer de confisquer cette souveraineté et de s'approprier le pouvoir en dépit de ce qu'il est légitime. Et ça se fera dans la violence. C'est-à-dire qu'on a une vision de la constituante et de l'Assemblée, des assemblées de la Révolution française, dans les débuts de la Révolution, comme étant des grands moments de démocratie. En fait, ce sont des moments où on met en place la loi martiale contre les mouvements populaires, qui revendiquent contre la cherté du grain. Alors disant, mais vous attentez à la liberté.
Mmh, oui, ah oui.
Et oui, vous attentez à la liberté, donc vous attentez aux valeurs de la Révolution française.
Ouais.
Puisque vous êtes en train de vous opposer à la circulation de grains. Mais les autres disent, mais non, nous on se bat pour pouvoir manger.
Ouais.
Pour notre liberté.
Ouais, ouais.
Et des députés...
Il y avait un combat là.
Voilà, des députés soutiennent ce mouvement paysan.
Ouais.
Ou ces mouvements populaires, Robespierre par exemple,
ouais,
en disant mais vous ne voulez pas utiliser la loi martiale pour des êtres humains qui se battent pour leur liberté. Est-ce que cette liberté dont vous parlez, vous, que vous défendez avec des armes, avec la loi martiale, est-ce que c'est la bonne liberté?
Alors ça c'est intéressant et c'est un sujet sur lequel on peut rebondir, cette notion d'essayer de transformer la Constitution, le cœur de cette loi. Puisque je crois que tu m'as dit un peu avant l'émission que Thomas Paine s'était érigé contre le fait que la Constitution avait été vidée de son sens par le fait qu'on avait supprimé des éléments fondamentaux. Et ces éléments, c'était... donc vas-y, tu
vas... Oui, alors là... Donc ces assemblées, entre 1789 et 1795, vont subir le peuple, en quelque sorte. Le seul moment où le peuple a été au pouvoir, disent-ils, ça a été le moment du gouvernement révolutionnaire, le moment de la convention montagnarde, le moment d'ailleurs où on a aboli la loi martiale, le moment où on a pensé un maximum, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait un maximum des prix pour que chacun puisse accéder à la nourriture, le moment où il y a eu des politiques redistributives qui vont être mises en œuvre, mais un moment éphémère. Hein, le gouvernement révolutionnaire, ça dure un an. Bon. À partir de la chute des montagnards et des robespierristes, l'Assemblée va faire en sorte que ça ne revienne plus, que ce gouvernement révolutionnaire, ce gouvernement populaire ne revienne plus. Parce que ce gouvernement populaire avait été le moment où le peuple était quasi propriétaire de la politique, faisait que tous les riches étaient suspects, considérés comme des accapareurs. Et donc, cette assemblée qui va se réunir en 95 va faire en sorte que la Constitution ne soit plus ouverte, ne dépende plus d'un suffrage universel, mais redevienne censitaire, hein, redevienne
liée au fait de
confiscatoire, voilà, en quelque sorte.
Hein. D'où le fait que, on va rappeler ce que ça veut dire.
C'est-à-dire, qu'il faut payer un cens, une certaine quantité d'impôts.
Il faut avoir de quoi payer pour participer. Quoi.
Alors, il ne faut pas payer pour participer, mais il faut payer des impôts.
Des impôts.
Et c'est par rapport à la masse d'impôts qu'on paye, qu'on est citoyen ou pas.
Ouais.
Hein. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à ça que Thomas Paine,
voilà,
va dire voilà, donc c'est absolument n'est pas possible que des gens ne soient pas représentés, puisque il disait, même
toujours
en Amérique,
idée,
il faut être représenté.
Ouais.
les hommes ont un droit à l'existence qui est un droit à l'existence politique, un droit à l'existence
le droit
physique,
d'exister, tout simplement.
Le droit d'exister. Voilà. et il dit ça, encore une fois, il n'est pas seul. Le mouvement populaire parle de droit à l'existence, les sans-culottes parlent de droit à l'existence. C'est vraiment un mot d'ordre de cette époque-là. Les montagnards parlent de droit à l'existence. Hein. Donc on est dans une configuration où il y a vraiment le conflit de deux représentations de la société. Ceux qui disent une société, c'est d'abord ceux qui ont et qui produisent la richesse parce qu'ils ont les propriétés. Et les autres disent la société, c'est d'abord un ensemble d'individus qui se respectent et dont on respecte l'existence.
Mais on a l'impression que c'est un discours de 2012, ça.
Oui, bien sûr. c'est...
On est en plein dedans, là, en ce moment.
Non, mais la question de la spéculation, la question d'une république qui est pensée comme une espèce de grand marché où le propriétaire domine, c'est des choses qui sont pensées à la fin du 18e.
Oui. Et puis les manifestations des soi-disant entrepreneurs, les pigeons, on voit bien qu'il y a une... Parce qu'on ne sait pas si c'est des entrepreneurs ou si c'est pas, d'ailleurs... Un groupuscule apparemment...
Mystère.
Si on cherche sur Internet, on regarde que les détenteurs du site Les Pigeons, c'est une société de communication qui travaille pour l'UMP.
Oui, oui.
Donc on peut se poser des questions quand même.
On peut se poser des questions.
Bon, voilà. Donc, voilà, il y a des mouvements aujourd'hui qui sont exactement ces mots-là. Ils sont extrêmement modernes, en fait. Hein.
Voilà, donc c'est extrêmement moderne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu deux siècles comme une espèce de chape, une espèce de couvercle, qui a été posée sur cette complexité du XVIIIe siècle où émergent énormément de problèmes dont on prend conscience maintenant. Et qui émergent maintenant parce qu'ils ont été pendant tout le XIXe et le XXe siècle confisqués par ce qu'on pourrait appeler le récit de la modernité. Un récit qui est un récit productiviste. Mmh. Un récit où même quand on est socialiste, on a une vision du progrès, de la production, hein, où il faut produire le plus possible, mais pour le prolétariat ou pour les ouvriers. Mmh. Hein, et où quand on est hostile au capitalisme, on est quand même producteur de ce discours-là. Hein, et qui fait que le socialisme ou le libéralisme, dans ces périodes-là, et plus tard le communisme soviétique ou le libéralisme américain, deviennent finalement les deux faces d'un même discours, qui a simplifié complètement ce qui se passait au XVIIIe siècle, qui a simplement gardé ce qui était pour eux le discours qui les légitimait. Hein. La Révolution française était en fait une révolution bourgeoise, dans laquelle émergeaient des valeurs qui allaient pouvoir permettre le développement d'une industrialisation. Et certains s'en satisfont, qui sont les capitalistes, d'autres disent non, il faut s'y opposer, qui sont les communistes. Mais tous ont une vision relativement simplifiée du XVIIIe siècle.
Ouais, ouais. Voilà. Dualité, alors que c'est plus global que ça.
Voilà, et ces grandes idéologies qui ont, construit un passé, ces grandes idéologies se sont effondrées. Le communisme s'est effondré avec l'URSS, et le libéralisme triomphant n'est pas encore mort, mais on peut dire que la crise de 2008 a remis très sérieusement en cause
un certain nombre de ses fondements,
ses fondements et ses légitimités. Hein. Et ce qui fait que les acteurs sociaux, les citoyens, se posent des questions sur la nature du monde dans lequel ils sont. Et recherchent des outils qui leur permettraient de voir les impasses, les cul-de-sac dans lesquels nous sommes, et prennent conscience que ce ne sont pas forcément les catégories politiques héritées du XIXe et du XXe siècle qui sont efficaces pour ça. Et que celles du XVIIIe siècle finissent par devenir étrangement modernes. Quand on disait au XIXe siècle, XXe siècle, droit à l'existence, quel est l'intérêt? Hein? C'est révolution, c'est la barricade. Ouais, ouais. Ça, c'est intéressant. C'est dictature du prolétariat, droit à l'existence. Ouais. Mais là, on comprend mieux, nous, au XXIe siècle, ce que ça signifie.
Droit à l'existence, et puis ce lien avec le revenu, c'est ce lien avec la compensation minimale. Nous, sur Monnaie Libre, on va parler de la nécessité de considérer chaque homme comme étant potentiellement un producteur libre. Et donc, pour cela, il doit pouvoir accéder lui-même et choisir les ressources auxquelles il accède. Et ça ne peut se faire qu'avec la monnaie, puisque la monnaie est le seul bien qui est universellement échangeable, par définition même de ce que c'est qu'une monnaie. Et donc il n'y a pas vraiment de monnaie libre s'il y a une partie des hommes qui peuvent utiliser ce qu'on appelle monnaie et pas les autres. Et que donc s'il n'y a pas un minimum de répartition de cette monnaie dans la population, que ce soit dans l'espace et ou dans le temps, parce que si on le fait que dans l'espace et que demain une génération suivante se retrouve privée de cette monnaie, ne serait-ce qu'en partie, on n'a pas cette égalité dans l'espace et dans le temps, donc spatio-temporel on pourrait dire. Et donc, on va analyser les codes monétaires par rapport à cette dimension-là. Est-ce que chaque homme est potentiellement en mesure d'utiliser la monnaie ou ce que vous appelez monnaie? Sinon, vous l'appelez monnaie que de votre propre côté, donc ça ne peut pas être considéré comme monnaie par tous. Voilà, c'était un aspect de la liberté associée à la monnaie. Alors, on va poursuivre sur Thomas Paine. Tu es déjà passé au-delà, parce que tu as fait... Tu es allé au-delà de la vie de ces idées, au-delà du 18e. Thomas Paine, il meurt vers 1809, c'est ça?
Oui.
Donc il a vécu Napoléon ou il est parti entre-temps?
Alors, il retourne aux États-Unis quand le blocus anglais autour de la France lui permet de partir, parce qu'il est toujours interdit de séjour et les frégates anglaises le recherchent. Hein, donc il a essayé de s'embarquer à plusieurs reprises. Mais il va réussir à partir de 1802, au moment où la paix est signée, il va retourner aux États-Unis. Et il dit « Je fuis la France et sa politique d'esclave ».
Donc ils avaient remis l'esclavage, c'est ça?
Alors l'esclavage va être remis en place. Ouais. Et puis c'est le moment où Bonaparte a fait un coup d'État en 1919 et où en 1802 il a confisqué tout pouvoir et même chez les républicains les plus tièdes, qui soutenaient le coup d'État en se disant que c'était peut-être un moyen de sauver cette République qui s'effondrait et qui prenait l'autre toute part, il n'y a plus d'illusion possible. Donc Thomas Paine va rentrer aux États-Unis. Va continuer là-bas, il avait habité à New Rochelle, à côté de New York, et va continuer là-bas à avoir un rôle de conseiller. Il va toujours fréquenter des hommes politiques, Jefferson, il rencontre des personnes qui sont proches de ses idées, et il est totalement détesté de ses adversaires. Pour qui il incarne à peu près tout ce qui est haïssable. Il incarne ce peuple, il incarne l'anarchie, il incarne la terreur de la Révolution française. Il a été précédé par tout un tas de gravures anglaises qui l'ont représenté à foison comme un ivrogne habillé en sans culotte qui essaye de détriper son prochain et qui est l'incarnation, on va dire, de Robespierre dans le monde anglo-saxon. Si bien que l'historiographie américaine va, dans ses débuts, va lui fabriquer une image d'un personnage qui est un personnage dangereux, un personnage qui est un personnage sulfureux, et va fabriquer ce qu'on pourrait appeler une légende noire ou une légende grise de Thomas Paine, un homme venu du peuple, ivrogne, inconstant, boutiquier, vulgaire, qui n'a pas l'envergure finalement d'un des pères fondateurs de la République américaine, d'autant que ses idées trop subversives pourraient mettre à mal une révolution américaine qui se pense au XIXe siècle comme finalement peu radicale. Qui se retravaille comme étant finalement assez sage. Et donc Thomas Paine n'a pas de place. Il est évacué du grand récit américain, et il faut attendre les travaux d'un historien américain qui s'appelle Conway à la fin du 19e siècle pour qu'il commence à sortir d'une position qui était un placard en quelque sorte. Un placard.
Voilà. D'accord, donc c'est Conway qui le ressuscite.
C'est Conway qui commence à faire des.
Il revient un peu dans le flux de.
Alors il revient dans ses idées, il montre un Thomas Paine qui joue un rôle important dans la Révolution américaine, donc qui joue un rôle également dans la Révolution française, et qui doit être réévalué. Ses écrits, sa pensée politique doit être réévaluée. Mais ça, c'est dans la sphère qui est la sphère américaine. Dans la sphère anglaise, où il est détesté par les dominants en Angleterre. Il est détesté par ceux qui sont favorables à la propriété, qui sont favorables au pouvoir en place. En revanche, dans le mouvement ouvrier naissant, il devient l'emblème. C'est-à-dire que droit de l'homme, oui. Ça va être le bréviaire des ouvriers anglais.
Que j'ai ici avec moi, hein, droit de l'homme de Thomas Paine.
Parce que déjà dans droit de l'homme, il avait commencé à réfléchir à justement cette répartition des richesses. À se dire, mais vous ne trouvez pas que la guerre occupe énormément de monde et d'argent? Vous ne trouvez pas que le fait de faire des conquêtes comme politique de puissance en Angleterre, en France, occupe énormément d'argent, mobilise de l'argent inutilement. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'avoir un gouvernement qui ne pense pas à la conquête de l'autre, mais pense au contraire à mobiliser cet argent pour le bien de tous? Par exemple, dit-il, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre cet argent pour faire une école gratuite, pour élever des enfants? Donc est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet argent pour faire des allocations familiales?
Ah ben ça, c'est un truc qu'on a mis en place alors.
Pour penser des retraites. Voilà. Et donc pour les ouvriers anglais, Paine, c'est l'homme des retraites.
Ouais.
C'est l'homme qui propose des voies politiques, d'autres manières de gouverner. Avec, alors Paine, en plus, c'est quelqu'un de concret, donc il fait toujours plein de calculs. Ses bouquins sont plein de chiffres, de tableaux. Alors, on peut les critiquer, parce que du point de vue de notre expertise scientifique, c'est peut-être pas forcément...
Mais à l'époque, il n'avait pas l'ordinateur.
Il n'avait pas d'ordinateur, absolument.
Il ne faut pas oublier ça, parce que c'est très difficile de faire des calculs longs à la main.
Hein. Exactement. Mais il faisait ses calculs longs à la main, il montrait ses calculs, toujours.
Ouais,
Il disait, voilà, il est possible, avec ce qu'on a, d'utiliser l'argent autrement. Et à l'époque, enfin, c'est pas une anecdote, c'est important. Pas de conquête. À la place, on va donner de l'argent aux ouvriers, hein, pour qu'ils vivent dignement. Toujours cette question-là. Hein. Alors, il parle pas encore d'allocation universelle, mais c'est vraiment dans le prolongement.
Ouais. Et ça commence à venir, quoi.
Et il dit, mais il faudrait éviter que l'Angleterre ait cette petite conquête en Inde. C'est un scandale. Ouais. Il faudrait décoloniser l'Amérique du Sud. Etc.
Mais en fait, il a prédit ce qu'il fallait faire, et donc voilà. c'est ce qui s'est passé.
Donc, en termes d'universalité, ouais. hein, c'est quand il dit le droit à l'existence, c'est penser effectivement dans le cadre d'une universalité, d'une fraternité universelle. C'est toujours à l'échelle du genre humain.
Hein, et donc, il faut absolument lire Paine dans les écoles. Je veux dire, c'est pas normal qu'un et auteur aussi énorme, et en plus dont les recommandations ont été suivies, malgré qu'on ne parle pas de lui, mais finalement on peut dire que ses recommandations ont été suivies.
Il a été suivi, mais en France, c'est quelqu'un qui est peu connu, parce qu'il a, dans la Révolution française, effectivement, une position qui n'est pas la position d'un acteur central. On pourrait dire que c'est un second couteau. Ouais. Mais d'après ce que l'on dit là, on voit bien que ce second couteau est quand même quelqu'un d'important par les idées qu'il diffuse. Hein. Mais c'est pas Danton, c'est pas Robespierre, c'est pas Condorcet. Bon, et donc il n'a jamais eu une place importante dans l'histoire. Le seul moment où on va le ressortir de la naphtaline, c'est au moment du bicentenaire de la Révolution française, donc en 1789, parce que on a besoin d'un type qui renvoie à cette cosmopolitique, qui incarne le bon étranger, le bon étranger, oui, celui qu'on va présenter comme étant emblématique des vertus de la Révolution française, etc., etc. Et on va en faire un aspect totalement aseptisé à l'époque, hein, totalement aseptisé, qui ne correspond pas à ce personnage extrêmement subversif qu'il est, au point encore une fois, qu'on l'identifie à Robespierre en France même. En France, quand il propose sa critique de cette constitution de 95, quand il met en place l'allocation universelle, on dit mais ce sont des idées qui sont des idées de la terreur, tout ça. C'est des idées de Robespierre. Hein, c'est des idées qui font que l'anarchie se développe. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a profondément oublié, et on a gardé une espèce de vague silhouette qui parle de droits de l'homme, sans que ça prête véritablement à conséquence, une espèce de vague principe. Ce ne sont pas des vagues principes. À cette époque, les droits de l'homme, c'est pas simplement quelque chose qui est un recueil d'idées. Ça constitue la société. C'est le contrat social.
Le contrat social.
C'est le contrat social.
Dont la monnaie fait partie.
Dont la monnaie fait partie.
Dont la monnaie fait partie. Alors, je crois qu'on arrive, un peu. Donc, on a vraiment vu cette magnifique vie de Thomas Paine et tout ce qu'il a apporté. On arrive un peu au bout de cette émission. On peut dire quand même, peut-être pour conclure, que quand même l'époque que l'on vit aujourd'hui semble un miroir conforme finalement de ce qui se passe à cette époque-là.
On peut dire que le XVIIIe siècle, c'est la puissance du marché qui est en train de naître, avec des débats pour savoir ce que ça pourrait donner. Pour un certain nombre d'acteurs, Condorcet par exemple, il estime qu'une société, ce sont des acteurs individuels qui interagissent et que cette interaction est liée à des intérêts et que finalement la politique c'est l'économie et qu'il n'y a pas besoin de trop réguler ça. Hein. Au moment où ces idées émergent, au moment où le marché émerge, il y a également tout un tas de pensées. Alors je dis Condorcet, mais il y a tout un dégradé, tout un éventail de représentations et de discours autour de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie de l'intérêt, hein, une manière d'un homme qui serait dicté par son intérêt. Et face à ça, il y a aussi tout un éventail de débats face à ce qui émerge pour essayer de comprendre ce qui se passe et le critiquer parce qu'ils estiment, au nom des fois de la religion, des fois au nom de valeurs qui sont les valeurs de la liberté.
Toujours la résistance face au changement aussi.
Oui, qui disent que, ou simplement qui analysent ce qui se passe dans les campagnes. Ouais. Ils disent que c'est un système qui va nous créer un état de guerre civile à l'intérieur. Bon.
Et on parle de ça aujourd'hui. Quand on parle de ça aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe en Grèce, quand on voit ce qui se passe en Espagne, au Portugal, et les tensions qui augmentent en France, on peut se poser des questions quant à l'insurrection civile en cours aussi.
Voilà, donc on voit au XXIe siècle les produits de quelque chose qui a émergé au XVIIIe siècle. Mmh. Et donc, tout ce laboratoire du XVIIIe siècle, tout ce débat qu'il y a eu à l'époque, et des fois un laboratoire en acte, la Révolution française, ce n'est pas des idées, ce sont des lois, ce sont des actes. Hein. Il y a là des réflexions qui ont été menées. Hein. Alors, l'histoire ne se répète pas, à la limite elle bégaye, comme dit l'autre, mais on ne va pas revenir au XVIIIe siècle. Mais il y a des outils théoriques, hein, des réflexions dont on peut faire l'économie, parce qu'elles ont déjà été menées, hein, et elles nous proposent en plus une autre perspective historique que celle dans laquelle on est, hein, qui est une perspective en fait très 19e siècle, hein, d'où effectivement l'intérêt et, ce sentiment de proximité. Et ce qui, moi, en tant qu'historien, m'intéresse, c'est justement de lier, hein, ce 18e à notre époque, parce qu'un historien, c'est quelqu'un qui interroge le passé à partir de son présent,
d'accord,
évidemment.
Alors, on va terminer, justement, parce que comme tu viens de le dire, ces réflexions, il faut s'en resservir, parce qu'elles ont été menées, ça a été beaucoup de travail déjà à l'époque, et qu'on vient de le dire, elles sont vraiment très très actuelles, et y compris donc, pour ceux qui, sur monnaie libre, comprennent tout l'intérêt d'une monnaie qui serait distribuée à minima sous la forme d'un revenu de base, comme nous pensons, nous, après nos calculs, qu'il faudrait le faire aussi. On peut citer donc les livres de Thomas Paine à lire absolument, donc Sens commun, on l'a dit, Common Sense, Droit de l'homme, 1 et 2, donc il y a deux parties.
Alors généralement les éditions regroupent les deux.
Les éditions regroupent les deux en général, voilà. D'accord, donc Droit de l'homme. Et enfin, Agrarian Justice, c'est ces grosses contributions, on peut dire.
Ces grosses contributions.
Il y en a d'autres.
Alors, il y en a d'autres, oui, mais qui sont, on va dire, pas forcément dans le champ, hein, qui est le champ de des idées économiques.
D'accord.
Hein, qui concernent la question de la religion en particulier, ou qui sont des écrits plus spécifiquement liés au contexte américain ou au contexte français.
D'accord.
Et Agrarian Justice, on ne le trouve pas facilement.
On ne trouve pas facilement. Alors, on en trouve des vieux exemplaires, j'ai vu ça sur internet.
Et on peut le trouver sur le site Gallica, de la Bibliothèque Nationale.
Numérisé.
Hein, numérisé.
Ouais, voilà. D'accord. Est-ce que de ton côté, est-ce que tu as produit des ouvrages liés à Thomas Paine directement?
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne, et en particulier sur le site qui s'appelle révolutionfrançaise.net.
Alors, révolution en un seul mot.
Révolution-française.net.
Française.net, où tu es. C'est ton site.
C'est un site collectif.
Collectif.
Hein, c'est une revue en ligne, un site collectif d'historiens qui essaient justement de lier les réflexions de la Révolution française aux problématiques qui nous sont contemporaines.
D'accord.
Hein, donc, essaye de faire le lien entre les deux.
Et là, il y aura aussi des références à Thomas Paine.
Là, il suffit de rentrer Thomas Paine ou Paine dans le moteur de recherche pour avoir de l'information.
Très bien, on mettra un lien, bien sûr, sur le podcast, sur Monnaie Libre, donc sur révolutionfrance-française.net, et tu auras d'autres liens à nous donner aussi, je crois,
oui.
Sur Thomas Paine.
Sur Thomas Paine et sur l'allocation universelle aussi, puisqu'il y a des collègues espagnols qui sont aussi qui travaillent aussi sur le XVIIIe siècle, mais plutôt du côté de l'histoire des sciences sociales, ou de l'histoire de l'économie, ou de l'histoire de la philosophie,
d'accord.
Et qui s'intéressent beaucoup à cette question d'allocation universelle.
Hein. D'accord.
Et donc, ça a été aussi le moment où, alors qu'on travaillait sur des champs qui étaient a priori...
Éloignés,
où on s'ignorait les uns les autres en partant de domaines
comment
très différents.
Comment s'appellent ces
collègues,
c'est quoi leur nom?
Alors, ils sont sur l'université de Barcelone.
Barcelone.
Hein, il y a Daniel Raventos, qui est économiste et philosophe, et en particulier, donc, il y a David Casasas.
David Casasas.
Qui sont à la tête d'un réseau international sur la problématique du basic income.
Ils font partie du réseau
Absolument.
Basic income.
Et je crois même que c'est David Casasas qui le préside.
D'accord, donc très bien. D'accord. Donc là aussi, si tu as des liens précis à me donner, je les mettrai dans le lien en texte sur le podcast associé. Et bien, je crois qu'on a fait un magnifique tour autour de Thomas Paine. Alors moi j'avais acheté, je l'ai avec moi, Les Droits de l'Homme, j'avais trouvé, évidemment, j'étais tombé dessus.
Je témoigne, c'est vrai.
Voilà, donc je l'ai, voilà. Je l'avais trouvé chez Belin Poche, en occasion. Je l'avais feuilleté, j'avais lu quelques passages, j'avais pas tout lu, mais alors, évidemment, tout ce que tu viens de me raconter me donne une furieuse envie de le parcourir dans les détails maintenant.
Voilà. C'est pour voir que Les Droits de l'Homme, c'est pas justement cette espèce de choses molles, de choses molles, mais que c'est très subversif. Voilà. Je vous rappelle que c'est à la tête de notre Constitution.
Oui, ben oui, c'est le fondement, voilà. C'est la loi fondamentale. Et sur la Constitution, peut-être que tu suis un peu les travaux d'Étienne Chouard. Tu n'as pas vu un peu ?
Non.
Qui a un des leaders du non-référendum de 2005, oui. Qui est prof d'économie et qui a dénoncé le traité européen et qui dénonce le fait que notre constitution finalement prive le peuple de pouvoir en fait. Et qui propose un autre système à base de tirage au sort, comme les Athéniens. Étienne Chouard, qu'on a interviewé aussi sur Monnaie Libre. Donc c'est à réfléchir bien sûr tout ça, il faut absolument se renseigner, réfléchir, lire et donc lire les anciens, et donc surtout Thomas Paine, dont on vient de terminer ici l'émission, assez complète je dois dire. Merci Yannick.
Merci à toi.
Maître de conférence à Rouen, et moi je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouvel épisode de Monnaie Libre. En attendant, eh bien, je vous laisse avec notre générique star. No More Dreams, ne rêvez plus, hein, on va regarder la réalité en face. Donc c'est de Nighter 313 et j'aime beaucoup, c'est une musique qu'il faut faire connaître, elle est sous licence libre comme l'émission. Merci à vous et à bientôt, au revoir.